Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport. On est ensemble pendant deux heures avec Olivier Giraud, membre de la Dream Team. Salut Olivier.
Salut Arnaud, salut à tous.
Bon, le mois d'août, c'est toujours important Olivier, pour les sportifs de haut niveau, c'est la prépa. Toi qui as été joueur et coach, ça se passait comment la prépa? T'étais dur ou un peu à l'ancienne, militaire?
Tu parles joueur ou coach?
Coach, ouais, plutôt coach quand
coach,
c'est
coach, ça n'a pas duré assez longtemps. On reproduit ce qu'on a déjà fait souvent. Joueur, t'as les six premiers jours qui piquent, quoi. C'est-à-dire que ce que tu as fait, le peu d'été que tu as eu, eh ben, tu le payes cash tout de suite. Et en général, tu vois pas le ballon et tu
de la piste d'athlète.
Tu en chies, c'est tout. C'est comme ça.
Et l'Olympique de Marseille dans l'actualité aujourd'hui. Alors, ils sont très avancés dans la préparation, l'OM, puisque la Ligue 1 reprend ce week-end. Et aujourd'hui, conférence de presse, présentation des recrues, avec un Pablo Longoria très offensif. Le président de l'OM est monté au créneau, notamment pour défendre son entraîneur, Igor Tudor. Monaco garde ses chances de disputer la phase de poule en Ligue des Champions. Match nul un partout hier en troisième tour préliminaire face au PSV. Mais l'ASM de Philippe Clément a montré deux visages face aux Néerlandais. On revient sur cette rencontre dans une petite demi-heure. Le Stade Rennais a présenté ses deux recrues en défense centrale. Arthur Théat, le Belge, et Joe Rondon, le Gallois. Un chantier urgent de boucler pour Florian Maurice, le directeur sportif. Vous l'entendrez sur le Mercato Rennais qui n'est peut-être pas totalement terminé. Paul Pogba ne passera pas par la case opération. Le milieu de terrain de la Juve va se soigner sans chirurgie pour éviter de manquer la Coupe du Monde. Une décision qui agace et énerve du côté de la Juve. Yoann Crochet des Drôles de Dames nous dira tout. Le 32-16 est ouvert. Supporters marseillais, monégasque, rennais, appelez-nous. Et évidemment, quand on parle de l'Olympique de Marseille, c'est Jom Vandalel, la musique d'entrée des joueurs sur le terrain. Et il fait également son entrée dans le studio de RMC, c'est Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Arnaud, salut Olivier, salut,
salut
à toutes.
Salut Clément.
Aujourd'hui, l'OM a présenté officiellement ses nouvelles recrues. Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Ruben Blanco et Luis Suarez. Clément, tu as suivi cette conférence de presse où c'est vrai que Pablo Longoria fut très offensif sur plusieurs sujets et en particulier celui de son entraîneur Igor Tudor.
Évidemment, on sait qu'il y a une ambiance électrique ces derniers jours à Marseille. Il y avait un désaccord entre le coach et les joueurs de l'Olympique de Marseille qui était d'ailleurs assumé par Jonathan Clauss après la défaite de l'OM face à Milan dimanche dernier, 2-0. Il nous avait dit, l'ancien Lensois, on peut pas tirer vers la droite et lui vers la gauche, sinon on n'avancera pas. Il faut qu'on lui fasse confiance. Il est à Marseille depuis un mois. Igor Tudor, il a déjà connu un accrochage avec Gerson, déjà connu un accrochage avec Jordan Amavi, qui a d'ailleurs été écarté du groupe. Réunion entre les joueurs et Igor Tudor hier en début de soirée. La direction y a assisté pour calmer les tensions, à l'image de Pablo Longoria qui a pris la parole pour rappeler aux joueurs qu'ils avaient des responsabilités et des devoirs. Conférence de presse dans la foulée donc aujourd'hui, 13h30 au Stade Vélodrome, et Pablo Longoria a en effet évoqué le cas de son entraîneur. Il demande aux observateurs de la patience. Écoutez-le.
Naturellement, tout changement, il faut mettre du temps à s'adapter. Dans le football, il y a des différentes choses. Première chose, c'est que je crois que l'évolution naturelle du football, c'est vers un football plus physique, plus basé sur les transitions. On voulait prendre comme club cette direction. C'est sûr qu'on ne va pas juger les vrais Olympiques de Marseille et d'Igor Tudor dans les mois de septembre. Les choses du vestiaire doivent toujours rester au vestiaire. On a parlé depuis les premiers jours d'exigence, de travail, de discipline et de tout le monde de prendre la même direction. L'adaptation, l'arrivée des nouveaux joueurs, ça permet de mettre de la vitesse à ce type de procès. Mais nous, comme club, nous sommes les premières que nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris. Hier, on a rappelé tout ce type de choses.
Hier, parce qu'il y a une réunion déjà entre les cadres marseillais et l'entraîneur Igor Tudor. Et évidemment, Pablo Longoria, déjà pour aplanir des choses.
Exactement, c'est ce qu'avait demandé Dimitri Payet, qui en tant que capitaine, évidemment, emmène ses joueurs vers une réconciliation. En tout cas, il y avait beaucoup d'agacement, je vous le disais, avec des joueurs écartés déjà, que ce soit Jordan Amavi ou aussi Kevin Strootman, qui lui est écarté depuis un petit peu plus longtemps. Mais Gerson s'est également accroché avec lui. Et parmi les recrues présentées cet après-midi, il y avait Jonathan Clauss, je vous en ai parlé. Ça a été le premier d'ailleurs à se rendre devant les médias. Forcément, son sentiment sur la réunion d'hier, elle a été posée, cette question, ça lui a été demandé, et lui, il préfère pas tirer la sonnette d'alarme. Au contraire, il évoque une mise au point simple. Écoutez-le, l'ancien Lensois.
Alors la réunion, j'y étais pas. Déjà, on a eu juste quelques minutes pour discuter avec le président et avec le coach et tous les joueurs. Enfin, comme une discussion tout à fait normale. Voilà, il y a des discussions, il y a parfois des incompréhensions. À chacun de s'exprimer. Et aujourd'hui, on est tous clairs sur le discours établi par le président, par le club, par le coach, par les joueurs. Il y a parfois des choses qui titillent un petit peu, mais il y a de la fatigue, il y a beaucoup de nervosité. C'est des choses qui font partie du foot, et que ce soit ici ou ailleurs, dans tous les clubs, ça se passe comme ça. Enfin voilà, nous on a discuté entre hommes et on a réussi à tout mettre à plat et sans problème en tout cas.
L'OM qui doit se remettre de la démission du départ de Jorge Sampaoli. Olivier Giraud, quand ça commence comme ça, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Non, mais c'est surtout que ça soit Jonathan Clauss qui prenne la parole là-dessus. Ça fait un peu rire parce que quand t'es un joueur, déjà, faut que tu te fasses à ton collectif, que tu t'entendes bien avec tes joueurs. T'as même pas encore joué un match officiel et t'es déjà en train de parler de problèmes avec ton coach alors que déjà c'est lui qui va peut-être t'accepter et te faire jouer et t'es tout nouveau dans le club et c'est toi qui prends la parole. C'est toujours très 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 compliqué et il s'en sort pas si mal que ça. Une bonne langue de bois, Jonathan Clauss.
Il était en conférence de presse aujourd'hui, c'est vrai que c'était
bon,
une patate chaude.
Hein. Il a été bon, ah ouais, oui. Et c'est à lui qu'on la refile. C'est quand même, on aurait préféré que la prise de parole soit sur un des cadres qui a pris cette décision, que ça soit à la fois public et surtout avec cette envie de rencontrer le coach. On aurait voulu voir un autre joueur.
Mais quand on débute,
pas de nom, mais on un autre joueur.
Quand on débute à peine une saison, t'as l'expérience évidemment des sport-co, des vestiaires de sport-co. Est-ce que la situation est récupérable, rien pour l'instant, voilà, c'est mouvant, Tudor vient juste d'arriver, le vestiaire avait la totale adhésion, adhérait totalement à Sampaoli, est-ce que ça te paraît normal ces remous, ou pour toi, c'est forcément mal parti, ça va mal se finir?
En fait, les joueurs ont parfaitement le droit de le faire, ça veut dire qu'à un moment, tu sais, t'es responsable de ton jeu, de ce que tu veux, de tes réactions même, ça veut dire qu'un joueur, c'est juste une personne comme tout le monde, avec son caractère à l'intérieur d'un collectif. Le seul danger qu'il y a là-dedans, et le gros danger qu'il y a là-dedans, c'est que tu peux le faire, mais quand tu le fais, il faut prendre les conséquences de tes actes. Et on l'a déjà vu sur des équipes de France féminines, par exemple. À un moment, quand ça se retourne, que tu sois un joueur important ou pas, t'as intérêt à être très très bon derrière, parce que ça se retourne très vite contre toi.
Donc pour toi, déjà que Pablo Longoria cadre les choses, dise stop maintenant,
C'était le message le plus important. Message le plus important, c'est celui du président à un moment. Il l'a dit, Longoria. Et il l'a dit, j'espère que ça a été entendu par certains. Il y a une hiérarchie. Il a montré des gestes, hiérarchie. Et donc, il sait que, parfaitement, que le problème, ça sera pas le coach. Parce que si tu n'édifies pas une hiérarchie rapidement, président, entraîneur, directeur sportif, ce que tu veux, et en bas, les joueurs, parce que les joueurs, ils ont une importance, mais dans la hiérarchie, il y a ceux qui commandent et il y a ceux qui jouent. Et donc, il a dit très clairement que la hiérarchie, c'était important pour lui, parce que c'est ce qui cadre un club, de toute manière.
Cet après-midi, Olivier, c'était la présentation des recrues. Quand on arrive devant la presse pour la première fois dans un nouveau club et qu'on nous pose des questions sur d'éventuels problèmes, etc., ça fait peur.
Ouais. Tout de suite, moi je pense que ça n'arrive pas très très souvent. Ou sinon, au moins quand ça arrive, ça a dû arriver quelques fois. Moi, c'est une des premières fois que j'entends un truc pareil, sans avoir joué un match de championnat, réunion de crise, alors que tu vas jouer la Ligue des Champions. Normalement, ça arrive pas trop. Mais si ça arrive, ce qui m'étonne le plus, c'est le manque de lucidité sur la saison qu'il y a à venir pour les joueurs qui provoquent ce type de réunion. C'est que ça met un bordel dans ton équipe et que tu es comptable des problèmes qu'il y a dans ton équipe. Et puis normalement, ça se fait franchement à couvert dans un vestiaire. T'appelles le coach, tu dis écoute coach, il y a un problème. Et ça arrive souvent, Klaus le disait, ça arrive souvent, mais ça arrive jamais en débat public. C'est pas les anges de la télé-réalité quand même.
Et le Marseille, premier match dimanche à 20h45 contre le Stade de Reims. Il est déjà important dans ce contexte, parce que si ça perd, ça va ne faire qu'entraîner cette spirale négative.
Mais c'est horrible. C'est horrible parce que tu sais, le premier match de championnat, c'est comme le premier match d'une Coupe du Monde. Tu ne sais rien de tes adversaires et tu ne sais rien de toi-même non plus face à la pression, comment tu t'es préparé. Et donc en fait, les premiers matchs de championnat, c'est les matchs où les gros peuvent perdre. Et déjà que tu ne sais pas grand chose. Si en plus tu te mets des problèmes de groupe et tu te mets une pression supplémentaire, très vite, si tu rates, par exemple, ton entame de match, imagine, tu prends un but très vite dans l'entame de... ça peut vite partir en vrille. Ça peut vite partir en vrille.
La suite de l'Olympique de Marseille, on est dans l'intégral sport avec Olivier Giraud, toujours avec Clément Brossard, Jonathan Clauss, on en parlait, une des recrues majeures arrivée de Lens, et son président l'a chaudement remercié. Pourquoi ?
Eh ben parce qu'il a donné de sa personne, Jonathan Clauss, pour faciliter son transfert vers Marseille en acceptant de baisser son salaire, tout simplement. C'est pour cette raison que Pablo Longoria, après avoir encensé évidemment ses qualités sportives, l'a remercié. On a senti une grande complicité déjà entre les deux hommes, le président marseillais qui a d'ailleurs avoué qu'il avait beaucoup de respect pour Jonathan Clauss de par son parcours, parce que c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard au niveau professionnel, également parce qu'il avait joué son premier match en bleu au Vélodrome, c'est un signe, et aussi parce qu'il avait frappé le coup franc qui a permis à l'Olympique de Marseille de se qualifier en Ligue des Champions avec Lens lors de l'ultime journée. Ça en fait des belles histoires déjà entre Jonathan Clauss et Pablo Longoria.
Il était question des recrues, donc la présentation des nouveaux joueurs. Mais Marseille doit continuer de vendre et de dégraisser.
Et Longoria l'avait déjà affirmé, il l'a réaffirmé. Donc il y a trop de joueurs aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Le président aimerait un groupe de 22 joueurs et des arrivées. On parle évidemment d'Alexis Sanchez, de Jordan Veretout, qui a aussi été l'objet d'un temps fort de la conférence de presse en début d'après-midi, on en parlera. Mais pour faire venir ces joueurs, forcément, eh bien, il faut en pousser d'autres vers la sortie. Ce serait le cas notamment de Conrad De La Fuente, venu de Barcelone il y a quelques années maintenant et en discussion avancée aujourd'hui avec Valladolid pour un prêt avec option d'achat selon la Provence, qui parle aussi d'un intérêt du Celta Vigo pour Bakambu, même s'il n'est pas sur la liste des indésirables, à l'inverse de Jordan Amavi, qui lui est mis de côté après un accrochage avec Igor Tudor. Mais pour lui, en revanche, pour l'ancien Niçois, il n'y a pas vraiment de prétendant pour le moment du moins.
Olivier, ça c'est un vrai problème de démarrer tout simplement des championnats alors qu'il va rester encore 4 semaines de mercato. Il y a d'ailleurs le même problème à Paris, de ces effectifs professionnels qui sont à plus de 30 joueurs. Alors ils sont pas forcément tous présents à l'entraînement, mais d'en écarter certains, sachant qu'évidemment quand ils étaient là la saison passée, ils ont des liens avec les joueurs actuels. Donc forcément ça rejaillit quelque part sur la vie de groupe, sur la performance, surtout, comment on s'entraîne.
Surtout et si j'ai pas à parallèle malencontreux. C'est comme si tu joues au poker et qu'il y en a, le PSG, ils arrivent, ils ont déjà 4 as dans la main. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. Et les autres, ils récoltent il faut faire des bons coups, il faut sortir les coups et peut-être avoir de la chance sur la rivière au dernier moment, pour avoir le bon jeu et l'emporter. Et en fait, le problème, c'est que dans cette catégorie-là, ils sont beaucoup à se faire concurrence pour essayer de récolter la dernière pépite qui serait laissée sur le chemin par les gros clubs et faire le gros coup à la fois pour la saison, mais aussi beaucoup à la recherche du gros coup qui pourrait être revendable plus tard, parce qu'il y a aussi ce jeu-là qui est très prégnant dans le football professionnel aujourd'hui.
C'est vrai que c'est toujours cet enjeu, on veut maximiser, surtout l'OM, il y a un petit côté trading, on veut aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses, donc voilà, il faut savoir vendre pour l'Olympique de Marseille. Alors il y a un joueur, là c'est dans le sens des arrivées, mais c'est presque une affaire, l'affaire Jordan Veretout, l'ancien Nantais, il est proche de signer à l'Olympique de Marseille, mais certains supporters sur les réseaux sociaux s'opposent à cette arrivée. Pourquoi ?
C'est vrai qu'on l'annonce comme la prochaine recrue de l'OM, Jordan Veretout. Il serait de source romaine, très proche d'un accord total, et pourrait arriver vendredi sur la Canebière, selon quelques indiscrétions. Oui, mais voilà, une partie des supporters ne souhaite pas l'arrivée de l'ex-Nantais au cœur d'une polémique. Le milieu de terrain aurait apporté son soutien à son beau-père après qu'il ait été condamné en mai 2021 à 2 ans de prison pour avoir violé une de ses filles. Il aurait même accepté, Jordan Veretout, de régler les frais d'avocat de son beau-père sur demande de sa femme. Alors le hashtag Veretout not welcome, pardon, que vous pouvez traduire par Veretout, pas le bienvenu, a été mentionné presque 10 000 fois sur Twitter ces derniers jours, ces dernières 48 heures même. Et Pablo Longoria a tenu avec fermeté à faire le point sur cette affaire cet après-midi en conférence de presse.
Il y a une question dans la vie, c'est faire des concessions morales, de juger populairement des situations. Je pose des questions. Il est condamné? Sans supposition qu'il a fait quelque chose. Parce que je peux faire des suppositions sur des autres choses complètement différentes. Naturellement, dans la vie, il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir des valeurs. C'est aussi dans les jugements des personnes. En rumeur, ça c'est un réflexe de la vie actuelle. Les réseaux sociaux. Quelqu'un met une chose, tout le monde doit suivre. Juger populairement quelqu'un pour une supposition. C'est juste? C'est moralement acceptable? Se pose tout ce type de questions. Il faut une réflexion en général sur tout ce type de choses. Ça, c'est mon point de vue. Il faut respecter toujours les personnes.
Alors Olivier, un, c'est une affaire d'ordre privé. Deux, Veretout n'a jamais dit qu'il cautionnait des faits pénals, répréhensibles pénalement, comme la pédophilie. Enfin, c'est assez invraisemblable comme histoire.
C'est un sacré raccourci. Déjà, à la base, savoir vraiment ce qui s'est passé, si on a envie de le savoir, parce que comme tu l'as dit, ça fait partie du domaine du privé. Et tout le monde, dans sa sphère privée, a des choses, tu sais, on se connaît, mais quand tu fermes la porte de chez toi, tu sais pas ce qui s'y passe. Et peut-être que Vertu, voilà, il y a plein de suppositions, et c'est peut-être quelqu'un qui veut que ça se passe bien dans sa famille. Tout simplement, comme tout un chacun dans sa famille. Et faire des petits raccourcis très rapides, juger quelqu'un sur juste une information, là, on arrive dans la partie limite de ce qu'on a le droit de faire et d'influencer dans la vie de quelqu'un. Et là,
c'est de la calomnie.
C'est de la calomnie, évidemment. Bien sûr que c'est de la calomnie.
Et on rappelle qu'en France, on a le droit à un avocat et qu'il faut bien le rémunérer. C'est pas parce que fait un excès de vitesse à 150 km/h que Olivier paye mon avocat qui cautionne de rouler comme un chauffard.
C'était la dernière fois d'ailleurs.
Non, mais tu sais, quand tu sais comme c'est compliqué une vie familiale, et pour tout le monde, hein, que tu gagnes des millions ou que tu sois au RSA, pour tout le monde, c'est compliqué. Raconter une vie familiale, c'est très très long. Et il a certainement pas envie de le faire. Et
donc, ça ne nous regarde pas.
Et comment on peut juger une vie familiale par juste un acte qu'il a fait sans comprendre pourquoi il l'a fait? Et si on a le droit de juger ce qu'il fait dans sa sphère privée.
C'est une info qui n'avait pas traversé la frontière, pour en avoir parlé avec quelques Italiens cet après-midi. Ils découvrent ça en même temps que nous aujourd'hui.
On accueille Henri Pierre au 32-16. Salut Henri Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour, on est heureux de t'accueillir dans l'Intégral Sport, mais c'est avec un très grand plaisir. Henri Pierre, on va parler du sportif et notamment de cette réunion pour aplanir les choses avec Igor Tudor. Est-ce que pour toi, c'est l'entraîneur qui doit mettre de l'eau dans son vin ou ce sont les joueurs qui doivent tout simplement se mettre au diapason de leur nouvel entraîneur?
Alors moi, je crois que bon, c'est une affaire sans être une affaire, à mon avis. C'est simplement le fait que c'est un peu tout le monde. On apprend à se connaître. Donc je crois que Tudor est arrivé. Il a des manières qui ne sont pas les mêmes que celles qui étaient de l'entraîneur avant. Bon, il doit y avoir aussi un peu de la nostalgie pour certains. Il doit y avoir donc une façon de dire, on travaille d'une manière, on travaille de l'autre. Mais moi, je trouve que c'est très, très bienvenu. Parce que ça vient très tôt. Alors, les gens pensent que très tôt. Moi, je préfère qu'on se dise les choses. Si Tudor a des façons de faire qui ne plaisent pas à certains, ou l'inverse, certains ont des façons de faire qui ne plaisent pas à Tudor, il faut se les dire, on se les dit de suite, parce que dans un groupe, il n'y a qu'une chose qui peut être néfaste, c'est quand on ne se parle pas, et qu'on laisse ces petits, entre guillemets, cancers vivre à droite à gauche, que les uns disent, et que ça fasse des polémiques entre certains, que ça fasse des groupes. Là, je crois que le président a bien repris la main. Il a bien expliqué que c'était Tudor et qu'ils avaient choisi Tudor. Donc, nous, en tant que Marseillais, ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas parce qu'ils ont une nostalgie, ben, il faut qu'on l'accepte parce que c'est ce qui a été choisi. Et ça donne une belle direction de dire, voilà, on va travailler d'une manière, avec des nouveaux joueurs, avec une nouvelle façon. Peut-être que lui a envie d'avoir des guerriers, des gens qui courent sur le terrain. Enfin, c'est sa façon à lui. Ceux qui n'étaient pas d'accord ou ceux qui ne sont pas contents, ils devaient le savoir avant ou ils auraient dû s'en renseigner avant et puis se mettre sur la liste des transferts. Voilà. Je pense que c'est très bien, c'est bien tombé. On a vu certains autres clubs, quand on ne veut pas en parler ou quoi, ben, c'est là que les choses s'enveniment, mais c'est là que ça devient quelque chose.
Mais Henri-Pierre, est-ce qu'il ne doit pas s'inspirer de ce qu'avait fait Sampaoli, de la façon dont il avait attribué les rôles de certains, parce que Sampaoli avait quand même l'adhésion de tout le monde quand on voit l'OM la façon dont les joueurs se jetaient sur lui lors de la victoire, lors de la dernière journée, parce qu'il semble quand même remettre en cause aussi pas mal de statuts. Je dis pas à tort, je le juge pas, mais pour toi, est-ce qu'il doit quand même s'appuyer sur ce que faisait son prédécesseur et qui avait marché avec cette deuxième place, ou il doit avoir carte blanche et appliquer ses idées, quitte à remettre en jeu les statuts de certains?
Ah, moi, je veux qu'il ait carte blanche et qu'il ne remet pas. Parce que, bon, Sampaoli, quand il est arrivé, il ne faut pas oublier qu'à Marseille, quoi qu'il en soit, il était contesté aussi. Il y a eu des moments où il n'a pas été bon. Après, ça s'est fait. Eh bien, ça se fait parce qu'il avait une manière de faire et je comprends que certains joueurs puissent avoir cette nostalgie-là, ou même certains supporters, de dire, bon, Sampaoli. L'autre, à ses manières à lui, moi, je ne vois pas comment on peut demander à un entraîneur qui arrive, qui a certainement des concepts, des principes, et qui veut mettre ses principes. Vous savez, moi, ça m'arrive ou ça vous arrive à vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui, au début, vous semble être quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. Et puis après, en voyant les résultats, en voyant le travail qu'il a produit, eh bien, ils vont se jeter dans les bras de Tudor comme ils se sont jetés dans les bras de Sampaoli. Alors, Je comprends que Sampaoli, ça a été un départ un peu, pour certains, qui a été compliqué. On n'a pas compris. Voilà, il y a une incompréhension. Et ça a été au niveau du public. Ça a été peut-être aussi, et certainement, au niveau de certains joueurs qui l'ont un peu adulé, qui l'ont adoré. Bon, mais Sampaoli, c'est une page qui est tournée. Donc, il faut arrêter de penser Sampaoli. Maintenant, il faut penser Tudor. C'est ce garçon-là, cet entraîneur-là, qu'on doit supporter, qu'on doit comprendre et avec qui on doit pouvoir...
Tiens, Olivier, ta réaction sur les propos d'Henri Pierre, sur les propos d'Olivier.
Il y a un truc qui est très compliqué, qui est vraiment très compliqué, et ça arrive dans certains clubs. C'est arrivé à Lille, hein. Ça veut dire que quand tu as un entraîneur qui, la saison d'avant, avec sa méthode, a réussi à réunir tous les joueurs autour d'un projet et que cet entraîneur part sur une victoire, ou en tout cas sur une note très 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 positive, celui qui arrive après, de toute manière, il va essuyer les plâtres à un moment ou à un autre. Tu peux en parler à Jocelyn Gourvennec, récupérer Lille après la saison extraordinaire qu'avait fait Galtier, c'était tout sauf un cadeau de récupérer Lille à ce moment-là, parce que en fait, c'est pas seulement ce que tu vas mettre à l'intérieur, c'est que il y aura toujours l'empreinte,
les attitudes à changer,
les attitudes et l'empreinte de celui qui avait avant. Et si tu veux t'imposer, tu es obligé de changer quelque chose qui a fonctionné. Pour Tudor ne peut pas ressembler à Sampaoli, donc il arrive, il est obligé de mettre ses méthodes en lesquelles il croit, celles qu'il a travaillées pendant toute sa carrière, tu vois, ses convictions. Il peut pas partir avec les convictions. Tudor ne peut pas faire du Sampaoli, donc automatiquement tu vas te retrouver face à un dilemme. En général, ce dilemme là il arrive un petit peu plus tard quand même.
Mais en tout cas, Longoria, qui a soutenu très fermement Igor Tudor, avait rétabli la hiérarchie, très offensif, Pablo Longoria. Vous pourrez retrouver tous les extraits de cette conférence de presse sur le site rmcsport.fr. Merci beaucoup Henri Pierre au 32-16, merci beaucoup Clément Brossard,
merci à vous.
Pour ce point complet. Nous revient dans un instant à 18h, passé de 21 minutes dans l'Intégral Sport. On va parler de l'AS Monaco, qui hier a fait match nul, un but partout, troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions. C'était face au PSV Eindhoven. Eindhoven, à tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
18h23 sur RMC, l'Intégra Sport, toujours avec Olivier Giraud. Évidemment, ça enflamme le débat sur l'Olympique de Marseille. Hashtag RMC Live, appli direct au studio. Tiens, Jesmaïn qui nous dit: un entraîneur, c'est comme un prof à l'école. Le prof parle et dirige sa classe. Les élèves, sous-entendu les joueurs, doivent se taire. Marre de la République des joueurs. Tu souscris?
Je sais pas si je souscris, mais ça s'entend en tout cas.
Voilà pour le message de Smaïn. Effectivement, on en reparlera à l'Olympique de Marseille, évidemment, puisque voilà, ce premier match de championnat dimanche face au Stade de Reims. Nous, on va parler de l'AS Monaco, puisqu'hier, les Monégasques étaient sur le terrain pour un match officiel au Stade Louis II. C'était le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Allez.
Le ballon est au milieu de terrain, le coup d'envoi qui va être donné par les Hollandais du PSV Eindhoven avec Joey Veerman. Le milieu de terrain, des tribunes sont très très bien garnies, très très peu de sièges vides, une très belle ambiance, du beau temps et coup d'envoi donné à l'instant donc par les joueurs du PSV. Et le but pour le PSV de Joey Veerman, la frappe limpide du pied gauche en pleine surface de réparation et derrière la fête avec les supporters. L'ASM est mené après 38 minutes de jeu sur sa pelouse, 1-0 par le PSV, le but de Joey Veerman. Jacobs qui va essayer de trouver, ça reste dans la surface, la passe, le but. Axel Disasi qui voit tout heureux ce ballon lui revenir dans les pieds après une première déviation et qui à bout portant vient crucifier Walter Benitez. Et bien voilà, sur un coup de pied arrêté, Monaco revient. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer, un partout entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven. C'est finalement Diop qui va tirer vers Disasi. Disasi, stoppé par le but, non, le poteau cette fois-ci avec Youssouf Fofana qui était venu la remettre de la tête. Il avait réussi à être au second ballon et malheureusement le poteau qui vient stopper sa tentative. C'est terminé, un partout entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven pour ce troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Le retour, c'est dans une semaine à Eindhoven.
Vous venez d'entendre la voix de Valentin Jamin qui était au commentaire de cette rencontre et il est en studio avec nous. Salut Valentin.
Bonsoir
Valentin.
Messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Vous avez aussi entendu les commentaires de coach Courbis sur
de chance,
cette
hein,
action de fin de rencontre pour l'AS Monaco qui garde toutes ses chances, un partout. Il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité. Mais Monaco, quand même, Valentin s'est fait peur, notamment allez, après cette première mi-temps insipide.
Oui, effectivement, Monaco était bien entré dans son match. Alors, c'était le match de reprise en compétition officielle hein, de l'AS Monaco, ce troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, alors que le PSV Eindhoven avait déjà joué un match très important puisqu'ils avaient joué la finale de la Supercoupe des Pays-Bas, gagné 5-3 face à l'Ajax d'Amsterdam. Donc, en termes de rythme, Monaco était peut-être un petit peu en dessous du PSV, mais Monaco a pris le ballon en première période. Et c'est vrai, comme tu disais, c'était un petit peu insipide dans le sens où on n'arrivait pas à combiner. Il n'y avait vraiment pas de tranchant. On n'a pas vu de grosses situations. Et puis, ça s'est débloqué sur une des rares situations finalement néerlandaises avec un but de Joey Veerman qui était seul dans la surface de réparation. 1-0. Et donc là, évidemment, on s'inquiète un petit peu, même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. C'était compliqué pour Monaco à ce moment-là parce que Monaco inoffensif, Monaco mené, et on se demandait bien qui pouvait les sortir de là, d'autant que voilà, pour y revenir offensivement, c'était un peu difficile. Ça a été bien mieux, messieurs, en seconde période. Monaco a tiré 13 fois dans le match, 10 fois en seconde période. Ils avaient totalement la mainmise et c'est Dizazi, on l'a entendu, qui a réussi eh bien, à égaliser et donc à ramener tout le monde à un partout. On aurait même pu voir 2-1 pour les Monégasques pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une situation litigieuse. Tout Monaco a pensé qu'il y avait pénalty.
Même moi, j'y ai pensé qu'il y avait pénalty.
Voilà.
Moi aussi.
Sur une main en première période du défenseur Thésée, l'arbitre n'a pas trouvé que c'était assez décollé. Et puis Monaco a touché le poteau.
Il y avait le VAR, hein, on est d'accord.
Oui,
hein.
Ça a été checké à la vidéo. Et Monaco a touché le poteau en fin de match par Youssouf Fofana. Donc on était plus proche du 2-1 pour Monaco que du reste. Mais vous allez l'entendre, Philippe Clément était quand même satisfait de ses joueurs hier soir, l'entraîneur.
On peut pas avoir des regrets parce que les joueurs, ils ont donné tous. La mentalité était vraiment bien. Le premier mi-temps, c'était fermé. C'était difficile de trouver beaucoup des occasions. Le premier bonne action de PSV, c'était directement au but. On reçoit un coup, mais pour moi, le plus important, c'est que mon équipe, ils ont réagi vraiment bien. Et la façon que je le veux. Le deuxième temps, nous avons dominé tout le temps avec beaucoup de pression. Un petit peu ma chance avec ce ballon sur le poteau. Ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match. C'était nous.
Philippe Clément, l'accent de Philippe Clément laisse pantois Olivier parce que c'est vrai, on penserait plus à un accent slave que belge. Hein.
Ouais, on dira coach Hugo.
C'est vrai,
Clément Clémentovic. Aujourd'hui, on dit. Ah, très bizarre.
Sur ce match de Monaco, un partout, voilà, rien n'est fait. Tu dirais, quoi, c'est encore du 50-50 ou de ce qu'a montré Monaco, notamment en deuxième mi-temps, tu dirais léger avantage?
Alors, moi, je dis avantage à Monaco, c'est assez bizarre. Ça sent vraiment le match de reprise malgré tout, hein, pour Monaco. Parce qu'ils sont bons en début de match, mais hyper scolaires, hyper appliqués. Et tu vois, au jeu du scolaire, bah, le PSV est plus fort. Et plus fort, plus technique, plus réaliste aussi. Le but, tout le monde a été surpris. Hein, ça a été très très vite en deux actions, ils mettent un but superbe. Et en deuxième période, lorsqu'ils ont mis un petit peu plus de densité physique, parce que ça, on peut le reconnaître, l'équipe de Monaco est très bien préparée physiquement, parce que ça a beaucoup couru quand même en seconde période. Et ben dès qu'ils ont mis un petit peu plus d'impact physique, et ben ils ont pris le dessus sur cette équipe du PSV. Et je pense sincèrement qu'avec le rythme, ils peuvent remporter ce match. Bon, attention, hein, ça sera au PSV quand même. Il y a quand même cet apport du public qui peut être du côté du PSV, mais quand même c'est un bon truc que ce but à l'extérieur ne compte plus pour rien.
Et oui, c'est toujours le cas en handball. Hein. Et le PSG a payé cher il y a quoi, deux saisons face à Kielce, hein, en quart de finale de Ligue des Champions. Match retour dans une semaine à 20h30 à suivre sur RMC, donc PSV Monaco. Valentin, on le disait, cette deuxième mi-temps plus rassurante que la première, avec un bon Sofiane Diop qui a fait une bonne rentrée. Ouais, les Monégasques, quand tu les as vus à l'issue de la rencontre, ils étaient plutôt confiants.
Oui, Axel Disasi, alors il n'a pas voulu se mouiller entre guillemets, mais il a parlé de fierté par rapport au comportement et à la réaction montrée par son équipe. Et c'est vrai que si on avait l'impression que si Monaco avait joué 5-10 minutes de plus, peut-être que probablement que Monaco aurait marqué. Donc on est quand même sur une dynamique un petit peu ascendante. Après, effectivement, au PSV, ça va être chaud. Les supporters là-bas poussent vraiment derrière leur équipe. Et c'est ce qu'ont dit toutes les membres de l'AS Monaco interrogés après la rencontre. Donc voilà, 50-50 balles au centre. Il y aura un match de championnat hein, dès ce week-end face à Strasbourg. Donc il faudra aussi switcher sur la Ligue 1. C'est c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Donc Monaco va se rendre à Eindhoven, où Monaco s'est déjà rendu, messieurs, l'an passé, puisqu'il y a eu deux matchs de poule en Ligue Europa, et Monaco avait fait 0-0 à domicile et avait gagné 2-1 à Eindhoven. Axel Disasi en était l'ancien Rémois, buteur hier soir. On lui a demandé comment il voyait le match retour. Écoutez.
Chaque match a son histoire. Aujourd'hui, c'était une histoire. La semaine prochaine, ce sera une autre. On sait que là-bas, ça va être un match très compliqué. On est déjà parti là-bas la saison dernière et on sait qu'avec l'appui de leurs supporters, ils ont une très grande force avec ça. Donc, on s'attend à un match différent. On va se concentrer sur nous et je pense qu'il faut qu'on réitère les belles choses qu'on a fait ce soir.
Axel Disasi, le défenseur buteur hier face au PSV Eindhoven. Merci Valentin.
Avec plaisir.
On rappelle que si Monaco passe, il y aura un barrage le 16 et 17 août, l'aller et le retour 23-24 août contre le vainqueur de l'Union Saint-Gilloise, club de la banlieue de Bruxelles, et vainqueur de cette rencontre contre le Glasgow Rangers, sachant que l'Union Saint-Gilloise, les Belges, ont gagné 2-0 le match aller, match retour aux Rangers, donc il y aura peut-être un déplacement en Belgique, en tout cas c'est pour l'instant la tendance si Monaco passe, et si défaite, Monaco est reversé en phase de poule d'Europe League. 18h32 dans l'Intégral Sport avec Olivier Giraud. On revient dans un instant à parler du Stade Rennais qui présentait également ses recrues aujourd'hui. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
18h34 sur RMC, on est toujours avec Olivier Giraud dans cet Intégral Sport. Dans un petit quart d'heure, on parlera de Paul Pogba qui a choisi de ne pas se faire opérer du genou, du ménisque, et donc de garder toutes ses chances de disputer la Coupe du Monde en novembre prochain. On sera avec Johan Crochet, notre drôle de dame d'Italie. Mais avant cela, direction la Bretagne. Ah, il aime bien, il agite la tête Olivier Giraud, Dépêche Mode.
C'est la base.
C'est bien, ben oui, c'est Dépêche Mode. Pourquoi ? Parce que quand les joueurs rentrent au Stade Rennais, il y a cette musique et il y a Xavier Grimaud en tribune. Salut Xavier.
Quand il y a un but.
Quand il y a un but, pardon.
Exactement. Il y en a beaucoup à Rennes. Enfin, il y en a eu beaucoup l'an dernier au Roazhon Park. Bonjour.
Oh,
bonjour
Arnaud, oui, bonjour, il y en a eu beaucoup.
Bonjour à tous. Salut.
Il y en a eu beaucoup, je crois aussi au Celtic Glasgow, il y a cette musique, on partage évidemment les racines celtes. Aujourd'hui, des recrues étaient présentées, le Stade Rennais, quatrième du dernier championnat, qualifié directement pour la phase de poule d'Europa League. Deux nouvelles recrues, deux défenseurs centraux, le Belge Arthur Théat, acheté par le Stade Rennais, et un joueur prêté, le Gallois Joe Rondon, prêté par Tottenham, Xavier. Enfin, Bruno Genesio a ces deux défenseurs tant réclamés parce que c'est vrai que le secteur était totalement décimé.
Oui, c'était le chantier prioritaire du mercato rennais. Alors, pourtant, Rennes était la quatrième défense l'an dernier, donc il n'y avait pas vraiment d'hémorragie. Mais il y avait une impression qui était réelle de manque de force vive. Il y avait que trois défenseurs centraux. C'était trop juste pour tenir une saison. Et il y avait aussi le gardien, parce qu'on peut le rajouter, avec Alfred Gomis, le gardien titulaire, qui n'a pas dégagé la sérénité d'un vrai taulier. Donc rapidement, Rennes a bouclé Mandanda. Steve Mandanda, c'est pas anodin, évidemment. C'était le choix numéro un. Ça, déjà, ça va rassurer une défense. Et la suite, c'était remplacer le départ du taulier Naïef Aguerd, qui a été très bien vendu par Rennes, hein, 35 millions d'euros à West Ham, grosse plus-value pour les Rennais. Donc il y avait nécessité de prendre au moins un défenseur central avant le début du championnat. Et puis rapidement, il en fallait deux parce que Warmed Omari, le jeune Omari qui s'est un petit peu révélé la saison dernière, il souffre d'une pubalgie, donc il sera absent au moins jusqu'au mois d'octobre. Il ne restait donc que Loïc Badé et des gamins, Bélossian et Françoise, qui ont 17 ans. Donc ça n'a pas été simple de trouver ces deux défenseurs centraux. Il y a eu le feuilleton Kim, le coréen de Fenerbahçe, qui est finalement parti au Napoli. Et finalement, quasi coup sur coup, arrive donc Arthur Théat, tu l'as dit, 22 ans, jeune international belge. Il évoluait à Bologne, il a une belle réputation. Le deuxième, c'est le gallois Joe Rondon, près de Tottenham. L'option d'achat, ce serait de 20 millions d'euros environ. C'est le titulaire de la sélection galloise. Et par contre, il a très peu de temps de jeu en club ces dernières saisons, donc à voir son adaptation. Théat, Florian Maurice, qui était présent cet après-midi, va nous en dire un petit peu plus, il nous fait les présentations.
Au départ, déjà, quand on perd Naïef Aguerd, on cherche un joueur gaucher parce qu'on estime que pour la sortie du ballon, c'est plus fin, c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus facile. Après, sur le marché, il n'y en avait pas énormément. Il est très enthousiaste, il est très généreux, il dégage beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et ça nous a plu très, très rapidement.
Les gauchers sont souvent une denrée rare dans tous les sports. Olivier, voilà, avoir ces deux défenseurs centraux qui seront titulaires, hein, ça va être la charnière centrale, ça, Xavier, sur les premiers mois, en attendant qu'Omari revienne.
Alors, on peut imaginer que ce sera Badé Théâtre, c'est quasiment certain, même pour le match face à Lorient, parce que Rondon est arrivé vraiment il y a quelques jours. C'est un Anglais, il faut qu'il s'adapte. Et Loïc Badé est le joueur qui a le plus joué dans les matchs de préparation. Donc, ce sera un petit peu, entre guillemets, le tweak de le mettre sur le banc dès le début de la saison. Donc, a priori, ce sera Badé Théâtre, mais il y aura grosse concurrence pour le poste de centrale, clairement.
Ouais, c'était urgent parce que la saison débute, hein, Olivier, et après le marché aussi, tel voilà, il y a eu la piste du Coréen qui n'a pas abouti, comme le nous disait Xavier. Ouais, il était temps pour le Stade Rennais d'avoir de renflouer son secteur défensif.
Bah, si t'as pas de base, de toute manière, tu ne peux pas relancer. Ça vaut dans beaucoup de sports collectifs. Et les postes de défenseurs qui étaient délaissés pendant très longtemps font partie des postes les plus importants. Les défenseurs, relanceurs, jeunes, que aussi dans la philosophie du Stade Rennais, prendre un jeune international dont tout le monde pense du bien et que on sait qu'il y a eu beaucoup de succès avec certains Belges qui ont été très très bien revendus plus tard. Bah, je pense que Rennes faire un bon coup si le jeune Arthur Théâtre fait une très bonne saison.
On a hâte de le voir pour le Stade Rennais, le voir débuter. Et il y a un autre feuilleton, Xavier, à Rennes, c'est celui des prolongations. Il y a Benjamin Bourigeaud, le feuilleton dur. Mais c'est vrai qu'on peut rajouter aussi le capitaine Amari Traoré.
Ouais, alors le feuilleton Bourigeaud et Traoré, c'est quasiment ce qui intéresse le plus les supporters de Rennes, parce qu'on parle pas de n'importe qui, hein, pour les deux joueurs. Ce sont deux cadres de l'équipe, le capitaine Amari Traoré, le vice-capitaine Benjamin Bourigeaud et capitaine de cœur des supporters. Ils sont là depuis 5 ans. C'est long, hein, dans un club. C'est la période dorée, hein, du Stade Rennais qui marche très très bien ces dernières saisons. Alors, fin de contrat en 2023, départ ou prolongation. Les deux joueurs ont une offre du club. Bourigeaud notamment aurait une très belle offre sur la durée, notamment au niveau salarial. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète qui intéresse les joueurs sur le bureau du Stade Rennais. Florian Maurice, il a, alors on va pas dire montrer les muscles, mais il a eu une sortie intéressante sur Bourigeaud et Traoré. Est-ce qu'il y a une deadline notamment? On va écouter la réponse de Florian Maurice.
Je gère Fat tranquillement parce que ils sont sous contrat avec le Stade Rennais encore pour un an. Pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise ni de deadline de prise. Mais à partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble.
Donc tu l'as relancé, s'ils débutent le championnat, s'ils sont titulaires.
Exactement.
Tout à l'heure. Bah demain, bah ce week-end.
Donc, je lui ai dit, s'il joue dimanche, ils ne partent pas. Là, il aurait pu être encore plus, montrer encore plus les muscles en disant oui. Il a juste dit, je le souhaite. Je souhaite qu'il reste et que s'il débute le championnat, il reste. Olivier, je pense que tu trouves ça logique.
Bah oui.
Mais le mercato est long, hein. Il y a encore 4 semaines de
ouais, mercato. Mais ça reste un cas à part, Bourigeaud, parce que de toute manière, la clé, elle est clairement de son côté, puisque c'est un joueur qui a fait partie du renouveau du Stade Rennais, autant dans la manière d'animer le jeu que ce qu'il représente dans le club. On parle beaucoup des problèmes avec les joueurs. Lui, c'est un joueur exemplaire, c'est un joueur qui ressemble au club. En général, on laisse partir des joueurs qui ont envie de partir. Celui-là, il n'a pas envie de partir. Et c'est le jeu classique de la renégociation du contrat de l'un des meilleurs joueurs d'un club que tout le monde a envie de re-signer. Et après, c'est un sport dans le sport, la négociation du contrat. Donc, ils en sont là, mais assurément qu'ils vont trouver une solution.
Mais ce qui est dur pour Benjamin Bourigeaud, c'est qu'à Rennes, on veut à tout prix le garder, à la fois les dirigeants, mais on voit les supporters. Il y a énormément de démonstrations d'amour pour qu'il prolonge, il reste, parce que c'est un chouchou.
Ah oui, non mais clairement c'est le chouchou des supporters, et il leur rend bien, hein, parce qu'il est extrêmement performant, il fait une magnifique saison. Après, Olivier, sur son envie de rester, il a pas envie, enfin ça ne le gênerait pas de rester parce qu'il aime le Stade Rennais, il l'a dit, mais il a aussi envie de vivre un nouveau challenge à l'étranger, familialement, sportivement. Maintenant, il ne veut pas partir de Rennes pour entre guillemets n'importe quoi, et sans doute que les offres qu'il souhaiterait pour le moment ne sont pas là, et c'est peut-être ça qui fera pencher la balance. Mais s'il y avait vraiment un beau challenge à l'étranger dans un beau club, Benjamin Bourigeaud pourrait s'en aller. Il l'a dit, hein, qu'il voulait vivre une expérience à l'étranger avant la fin de sa carrière.
Ouais, ça peut se comprendre aussi sur le fait que Benjamin Bourigeaud, il a 28 ans et qu'à un moment dans une carrière, t'as toujours envie d'aller tenter une expérience à l'étranger, garder ça, mettre ça dans ta carrière. Et que ouais, ça peut jouer dans la balance. Tu as raison.
C'est parce que quoi, 28 ans, c'est son avant-dernier contrat presque.
Ouais, mais en fait, c'est pas une question d'avant-dernier contrat, mais c'est l'âge où tu es en pleine possession de tes moyens et c'est à peu près le dernier carat pour être transféré dans un club étranger dans des bonnes conditions.
Et souvent, bah voilà, on parlait de la sphère privée tout à l'heure, ta petite famille, les enfants, tu es aussi un homme beaucoup plus posé, plus mûr, parce que et à 22 ans, on n'est pas le même qu'à 28, évidemment.
Et écoute, ça fait partie aussi des conditions de départ ou de souhait de rester de certains joueurs. Le cadre, à un moment dans la carrière, devient aussi important.
Souvent, madame décide de beaucoup de choses.
Et bien sûr, c'est une famille. Faut jamais l'oublier, même si ça déplaît à beaucoup. Les footballeurs, quand ils rentrent chez eux, ils passent beaucoup de temps avec leur famille. Et leur famille compte beaucoup. Et quand tu sais l'équilibre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de compromis familiaux, des fois, ça peut jouer sur la carrière sportive également.
Au rayon des départs, Xavier, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça bouge du côté du Stade Rennais?
Alors il y a donc les deux cas Bourigeau et Traoré. Sinon il n'y a pas forcément de départ de prévu. Une question en attaque, Ferrou Guirassy. On n'a pas encore formellement sa position. On sait qu'il a très peu joué. Il sera dans la rotation, mais il aura du mal peut-être à avoir le poste de titulaire. Est-ce qu'il pourrait partir? Dans ce cas-là, il y aurait d'autres arrivées. Voilà, on va écouter. En tout cas, Rennes ne se refuse rien, ne ferme aucune porte. Dixit Florian Maurice.
On n'est pas fermé pour apporter des touches supplémentaires. Depuis le début du mercato, avec Bruno, on s'était fixé sur l'arrivée d'un milieu de terrain plutôt 8, un mec qui est capable de boxer, d'être devant et derrière. C'est pareil, on travaille sur plusieurs pistes, on essaye d'avancer. C'est un marché difficile, mais même pour mon milieu, même pour les autres joueurs. Donc jusqu'au bout, on ira chercher un maximum de possibilités pour pouvoir continuer à renforcer l'équipe et être performant sur l'ensemble de la saison.
Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais. On accueille JC, supporter Rennais au 32-16. Salut JC.
Salut à toute l'équipe, vous allez bien?
Ouais. Ça va très bien, et toi?
Bah, ça va, il fait pas trop chaud dans les studios?
Non, bah, il y a une petite climatisation.
On va pas se plaindre.
Pas se plaindre. Et à Bretagne, un petit peu aujourd'hui, combien?
Un petit 27-30, là, donc ça va, mais il y a de l'air, donc on respire.
Il y a toujours de l'air en Bretagne, et il fait beau toujours en Bretagne.
Ouais, j'étais sur l'île de Bréa aujourd'hui.
Dans les Côtes d'Armor, près de Paimpol, voilà. Magnifique, île de Bréa. Tu connais l'île de Bréa? Il faut y aller. La Côte d'Émeraude, tout ça, c'est magnifique.
Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Mais bon, j'ai été pour mon travail, donc voilà.
Bon, et tu nous appelles au 32-16 parce que le Stade Rennais, ce recrutement, est-ce que tu es rassuré en entendant les propos de Florian Maurice? Et surtout, tu vois qu'il y a enfin ces deux défenseurs centraux d'arrivée.
Bah oui, bien sûr, oui, c'est rassurant. Mais bon, j'ai envie de dire, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 aujourd'hui qui aimeraient avoir ce binôme-là, Florian Maurice, Bruno Genesio, parce que c'est incroyable, tous les deux, là, comment ils se sont trouvés. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters du Stade Rennais qui ont eu peur quand Julien Stéphan est parti, quand il y a eu tout ce démantèlement, quand l'ancien président, j'ai perdu son nom, qui est parti à Lille.
Olivier Létang. Voilà.
Olivier Létang, pardon. Ouais. Quand Olivier Létang est parti, ça a été un petit peu la surprise pour tout le monde. On s'est dit, merde, c'est à nouveau un retour à zéro. Et puis finalement, c'est incroyable, cette mayonnaise, comment elle a pris ces deux gars-là. Là, ils s'entendent comme cul et chemise et puis ils font un super boulot, quoi. Non, j'ai envie de dire, moi, si Bourigeau reste, moi aussi, je reste, quoi.
Ton pronom pour la saison, est-ce que vous faites le top 3, Ligue des Champions?
Si on suit un petit peu...
Ou un parcours en Europe, qu'est-ce que tu souhaites?
Ça peut paraître un peu défaitiste ce que je veux dire, mais moi j'étais presque content de pas les voir en Ligue des Champions, parce que pour le moment Rennes, sa place c'est pas la Ligue des Champions. Pour continuer à grandir, l'Europa League, des déplacements, le Roizen Park est toujours chaud bouillant pour accueillir des équipes européennes. Mais bon, quand on se confronte à des grosses cylindrées, je pense que le club est pas encore prêt. Le public, lui, il est toujours. Mais c'est vrai que les joueurs n'ont pas encore forcément l'expérience et le club doit continuer à grandir. Après, moi, faut dire que je suis ce club depuis 2000 à peu près, et quand je vois en 20 ans un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'ambiance dans le stade,
voilà, surtout les quatre dernières années.
Oui, c'est incroyable, quoi. Ce club, c'est une famille, c'est incroyable. Moi, je suis tout ce qui se passe sur les réseaux. C'est un club amical, c'est un club... Moi, je me régale toujours à l'idée de voir un match du Stade Rennais, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je sais qu'il va y avoir du jeu, je sais qu'il va y avoir des buts, des actions. Peut-être qu'ils vont en encaisser aussi un peu, mais ça joue au foot, quoi. Ça joue, c'est vraiment plaisant. Alors, je sais pas comment les autres... les autres fans de Ligue 1, supporters de Ligue 1 aiment ou apprécient regarder le Stade Rennais, mais pour moi c'est un vrai kiff.
C'est un club qui est très apprécié, hein, même par les adversaires en général. On sent une certaine stabilité, et même quand il y a des polémiques, mais il y en a eu, hein, c'est vrai que le départ d'Olivier Létang,
même Julien Stéphan,
son opposition à Julien Stéphan, ça se fait toujours dans le calme et on passe vite à autre chose du côté de Rennes. Ça, on n'en fait pas des tonnes.
Il suffit de regarder le tifo qui avait été fait pour la famille Pinault, là, qui était incroyable, à part le RCK lors d'un match.
Le cop, ouais.
Il y avait dans le cop, c'était juste incroyable. Quoi. C'est vrai que la famille Pinault est très respectée. Ils font pas n'importe quoi. Ils pourraient.
Il y a eu un petit peu par le passé des Severino Lucas, des gros transferts, et pas forcément au tout début.
C'est vrai qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont mis vraiment les efforts sur le
puis des personnes de confiance. Tu parles de l'attelage, Genesio, Florian Maurice. On n'oublie pas le président Olvec et Olivier Cloarec qui assure l'intérim aussi. Voilà, c'est effectivement des gens assez solides.
Une bonne santé d'ailleurs.
Exactement, au président Olvec, un bon rétablissement. Merci beaucoup, JC.
Bah écoute, tu vois, moi j'habite dans les Côtes d'Armor. Ça me fait toujours une heure de route pour aller au Rosen Park, mais je sais que c'est pas une heure de perdu. Donc, allez, le Stade Rennais, et puis une super saison, et puis on sera derrière. Pour manger une bonne galette aussi, c'est bien très gagnant.
Absolument, c'est clair, ça je valide.
Merci JC, début de la saison du Stade Rennais face à Lorient. Un petit derby pour commencer, Xavier Grimaud au commentaire de cette rencontre dimanche 17h.
Qui sera plein. Ouais, avec un stade qui sera plein, il a très souvent été plein, le Roazhon Park. Je pense que tous les supporters espèrent voir un même festival offensif, les mêmes festivals offensifs que la saison dernière. Et on verra ça. Mais voilà, Rennes paraît prêt. En tout cas, ils ont l'ossature de la saison dernière en attaque. Donc, si le jeu est toujours là, ça devrait bien se passer pour eux dimanche.
Et ensuite, ils joueront Monaco, qui aura joué entre-temps son barrage. Un petit calendrier, pour commencer, pour les Rennais. Merci Xavier, très bonne soirée.
Merci à vous.
Salut Xavier.
Nous reviendrons dans un instant avec Olivier Giraud, on va parler de Paul Pogba, parce que ça y est, enfin une décision, opération ou pas opération. Yoann Crochet nous dit tout dans un instant.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
18h52 sur RMC, toujours avec Olivier Giraud, et on s'intéresse au cas Paul Pogba. Il ne va pas se faire opérer du genou. Le milieu de terrain de la Juve s'était blessé en préparation aux États-Unis. Le joueur, après avoir consulté, a décidé de ne pas passer sur la table d'opération. Johan Crochet, des Drôles de Dames, est avec nous. Salut Johan.
Salut Arnaud, bonsoir à toutes et à tous.
C'est le dossier très brûlant, j'imagine, du côté de Turin, parce que on parle d'une absence de 5 semaines où Pogba va subir une thérapie conservatrice. On parle un petit peu de musculation, pour guérir ce ménisque. Alors comment c'est perçu à Turin, sachant que en optant pour ce protocole et non pas une opération, il garde toutes ses chances pour disputer la Coupe du Monde en novembre prochain.
On va le dire très clairement, du côté de la Juve, on aurait clairement préféré qu'il se fasse opérer parce que l'opération évite tous les risques de rechute, et c'est d'ailleurs ce qui est mis à la une d'à peu près toute la presse sportive italienne, et pas seulement la presse sportive. Ce matin, tous les papiers sur Paul Pogba, même la une de Tuttosport, précise le terme risque dans la décision de ne pas se faire opérer, parce que ne pas se faire opérer, donc il va faire un protocole de 5 semaines, 3 semaines en piscine et à la salle de musculation pour renforcer un petit peu son genou, et puis ensuite 2 semaines sur le terrain à travailler également. Le problème, c'est ce que tout le monde souligne, c'est qu'il y a un vrai risque de rechute, un très haut risque de rechute même, à en écouter certains spécialistes médicaux en Italie aujourd'hui. Et donc forcément, quand on a un nouveau joueur à la Juve, qu'on vient d'arriver, qu'on a un gros salaire, un long contrat, et qu'il y a finalement une décision un petit peu personnelle en vue d'un tournoi avec l'équipe de France, auprès de certains, ça a du mal à passer. Je lisais plusieurs éditos ce matin. Il y a eu des éditos, un peu durs où on disait bon, il est bien gentil, Paul, ses espoirs de Coupe du Monde, etc. Mais c'est quand même la Juve qui lui paye un gros salaire. Et est-ce que c'est normal qu'un club, finalement, n'ait pas son mot à dire dans une décision aussi importante qui peut conditionner quasiment toute la saison de Paul Pogba? Parce que imaginons, ça se passe bien, et Paul Pogba aura eu raison, il aura été absent que 5 semaines, donc la Juve aura finalement tout gagné puisqu'il aura été absent moins longtemps, ça se sera bien passé et tout ira bien. Par contre, imaginons qu'il rechute et qu'il doive se faire opérer, là la Juve aura tout perdu. Donc c'est un peu ce qui est dit aujourd'hui entre la décision très personnelle, mais après tout c'est un cas médical, ça concerne le joueur, c'est lui qui prend la décision et ça paraît tout à fait logique.
C'est son corps,
mais il y a quelques dents qui grincent un peu, on va dire.
Olivier, d'abord, là, je vais m'adresser à Dr Olivier Giraud. Le ménis, c'est pas n'importe quoi. Cette articulation, voilà, au haut du tibia, qui permet au genou de fonctionner, c'est pas n'importe quoi. On parle souvent de ligament croisé dans le football, là. C'est pas totalement lié, le ménis.
C'est celui qui protège toutes tes articulations, surtout les os, en fait, entre le tibia, tu as tibia péroné et l'humérus, c'est ça.
Voilà. Avec la rotule.
Et en fait, quand t'as le ménisque a abîmé, soit il se bloque, ça dépend où il est fissuré. En fait, je t'en parle, je suis pas médecin, mais ça m'est déjà arrivé. Et en fait, il y a deux ménisques, il y a interne, externe, il y en a un qui dure beaucoup plus longtemps que l'autre. Mais de toute manière, quand tu ne te fais pas opérer, soit tu prends un protocole de longue musculation, mais qui ne va pas arranger ton ménisque, quoi qu'il se passe, et que t'as des grandes chances de rechute, ouais.
Et d'avoir quelque chose de plus grave derrière.
Oui, de plus grave, mais ce que je trouve assez particulier, c'est ce problème de la blessure de Paul Pogba. Quand tu re-signes à la Juve, ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'ait pas été négocié entre le joueur et la Juve au moment du contrat.
Parce que ça se voit la visite médicale.
Oui, non, mais juste que en général, quand tu signes un joueur et que tu sais déjà qu'il va se faire opérer et que tu vas le signer très très cher, en NBA par exemple, ça n'aura pas été possible, ça.
Non.
Impossible, le joueur n'aura pas été, ça aurait été négocié dans le contrat, il n'aurait pas pu aller en équipe nationale.
Alors attention messieurs, par contre, il s'est blessé après avoir signé,
oui.
Il s'est blessé après le premier match
aux
amical
États-Unis,
contre
ouais.
Chivas, lors de la tournée américaine, et donc bon, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ce problème-là. Et juste pour info Olivier, c'est en Italie on appelle ça le ménisque latéral, donc je suppose que c'est l'externe, j'imagine.
Non, il y en a deux, interne ou externe.
D'accord.
Mais qui se latéral,
on a qu'un seul ménisque sur chaque jambe. Et en fait, soit il se fissure, l'opération, elle est soit externe, soit interne, selon là où tu as ta fissure. Ça dépend de l'endroit où c'est placé. Donc, mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose dont on récupère très très bien le ménisque, hein, que tu l'as dit, Arnaud. Hein, c'est beaucoup moins grave qu'un ligament croisé. Mais s'il n'est pas bien pris en charge, tu peux arriver à d'autres problèmes.
Tiens, juste rapidement, cette petite question posée sur l'appli Direct Studio pour toi, Johan. C'est Romain. Comment la Juve peut prendre un joueur comme Pogba après ses années à Manchester United? Faut faire court. Faut m'inviter à écouter l'after, évidemment.
C'est une question qui s'entend, parce qu'effectivement, le passage des Julien Laurence, la drôle de dame anglaise, le dirait facilement, hein, que son passage était très compliqué à United. Après, la Juve se dit une chose, c'est que nous, on le connaît. Nous, on sait comment il fonctionne. Nous, on va le cajoler comme il faut, ce qui a peut-être parfois fait défaut à United. Et nous, on estime qu'on est capable de le remettre sur pied et de retrouver un Paul Pogba qui a très bien marché chez nous, à Turin, à la Juve. Je rappelle ces années où il arrivait déjà de Manchester United quand il est arrivé libre, beaucoup plus jeune certes, mais c'est un milieu de terrain très complet, très explosif, capable de marquer, faire marquer, beaucoup de projections, capable d'abattre un vrai travail au milieu de terrain. Et ils estiment qu'eux, ils seront capables de le remettre sur pied en lui rajoutant beaucoup de confiance qui, semble-t-il, avait un petit peu disparu à United. Donc c'est ça qui a ça, plus le fait qu'il était libre, que c'est un recrutement important pour peu de dépenses hormis salariales évidemment et primes.
Donc il y avait besoin un peu d'une icône entre guillemets, d'une star, voilà, pour la Juve.
Ouais, c'est ça, c'est tout un package qui fait que ils savent qu'il y a un risque évidemment, que peut-être qu'il ne retrouvera pas son niveau de la Juve, mais ils estiment que le rapport, c'est très moche de dire ça, mais qualité-prix entre guillemets, va dans le bon sens pour eux, qui sont capables de refaire de Paul Pogba un joueur important au milieu de terrain.
Merci beaucoup, Johan Crochet, notre dole de dame. À très vite et avec plaisir partagé, évidemment. Olivier, on revient pour une deuxième heure de cette intégrale sport. On parlera pas que de foot. On va quand même parler un petit peu de l'Olympique Lyonnais parce que il y avait conférence de presse avec Alexandre Lacazette et Peter Bosch. Mais on va parler rugby, on va parler Formule 1 aussi. C'est totalement fou ce qu'il se passe et ça concerne notre écurie française Alpine. On vous dira tout dans une petite demi-heure et nous on revient dans un peu plus de deux minutes sur RMC dans l'intégrale sport.